sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précieux nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours.
Une dernière fois tous ensemble.
Jésus, béni soit ton nom. Merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours.
Seigneur, nous te bénissons pour ton nom, effectivement, ton nom qui est plus élevé que tout autre nom, le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'effectivement, ton nom est merveilleux, mais tu es aussi la suprême rançon qui a été payée pour notre salut, pour la grâce qui nous est accordée. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons effectivement te bénir. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ton sang versé. Merci, Seigneur, pour la mort que tu as accepté de subir envers nous ou pour nous ou pour notre bénéfice. Seigneur, les mots sont faibles pour exprimer la reconnaissance de tes enfants. Les mots sont même, Seigneur, tout à fait aléatoires pour dire combien grand est le prix que tu as payé pour nous. Mais ce soir, on veut te dire merci parce que non seulement tu nous as aimés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, mais encore ce soir, tu viens, Seigneur, nous visiter par ton esprit. Tu as préparé cette rencontre de toute éternité. Et tu savais, Seigneur, ce que nous aurions besoin d'entendre. Tu savais, Seigneur, ce que tu voulais dire à ton peuple. Alors ce soir, nous te demandons simplement d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, de nous toucher par ta douce et puissante présence. Seigneur, moi-même, je me place entre tes mains. Je m'abaisse devant toi afin que toi, tu t'élèves. Que mes mots, Seigneur, cèdent le pas à ta parole. Que mes pensées, Seigneur, cèdent le pas à ta pensée. Et qu'en toute chose, Seigneur, avec tout ce qui va être partagé ce soir, nous prions que ta parole, la semence que tu veux implanter dans notre vie trouve un terrain qui t'est propice, un terrain qui est sanctifié, purifié, un terrain qui a été nettoyé et préparé afin de recevoir cette riche parole de ce soir. Je prie, Seigneur, pour ma sœur, je prie pour mon frère. Peut-être, Seigneur, se sont-ils rassemblés devant leur écran ce soir, malgré tout avec des fardeaux, avec des inquiétudes, avec le poids, assurément, de la journée, mais avec ce désir d'entendre ta voix. Parle-nous ce soir. Accorde-nous, Seigneur, d'entendre ta voix. Accorde-nous, Seigneur, d'être un bon réceptacle pour ta parole, afin que celle-ci, Seigneur, puisse s'enraciner en nous, qu'elle puisse être arrosée par ton esprit, afin, Seigneur, que dans nos vies, elle puisse croître et porter un fruit qui élève ton nom, un fruit qui te glorifie, non seulement de par notre vie ici-bas, mais un fruit qui va jusqu'à te glorifier dans l'éternité. Je prie, Seigneur, que nous puissions construire sur cette parole de ce soir. Je prie, Seigneur, que nous soyons mis au défi par cette parole. Assurément, ta parole n'est jamais proclamée pour que nous stagnions. Ta parole n'est jamais proclamée pour que nous fassions du surplace. Mais tu nous donnes ta parole, tu partages avec nous ta pensée pour que nous puissions croître et aller de progrès en progrès. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu prends avec nous ce soir. Parle-nous, ne retiens point, et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, dans le glorieux et dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors bienvenue à tous et à chacun à cette rencontre du mercredi soir 22 septembre 2021. Pour ceux en tout cas qui nous écoutent en direct, pour ceux qui nous écouteraient plus tard, on prie que la même grâce qui nous est donnée ce soir vous soit aussi accordée à vous qui prenez ces instants pour méditer la parole de Dieu avec nous, pour étudier la parole de Dieu avec nous. Alors ce soir, on va reprendre la thématique qu'on a abordée dimanche dernier dans un verset unique, le verset 1 de Jean 13, de l'Évangile de Jean au chapitre 13. On va revoir les quatre grandes notions qu'on a eues à partager ce dimanche. Je trouvais qu'il était important de revenir ce soir sur cette notion afin que celle-ci puisse guider notre façon d'être, hein, qu'elle puisse guider notre comportement en tant que citoyen, en tant que chrétiens qui sommes, comme le dit Pierre dans son épître, qui ne sommes que des voyageurs ici-bas sur terre, des gens qui sont en pèlerinage, mais en destination du ciel, que ce temps que nous passons ici-bas soit marqué par l'attitude que Christ veut que nous puissions avoir, le comportement qu'il désire que son fils ou sa fille puisse avoir dans sa vie de tous les jours. Alors je lis pour vous Jean 13 au verset 1, Évangile de Jean le chapitre 13 et le verset 1, et je lis pour vous bien entendu dans la version Louis II. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Je reprends le verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Comme je le dis régulièrement, la Bible, parole de Dieu, peut être lue sous différentes facettes et avec différents degrés ou avec différents niveaux de profondeur. Et quelles que soient les capacités des uns et des autres, quels que soient les outils qu'on utilise aussi parfois pour étudier la parole de Dieu, quels que soient les niveaux qu'on est capable de, dans lesquels on est capable de creuser, je crois que la parole, même dans une simple lecture, comme on vient de faire, peut déjà être une grande source de bénédiction. Assurément, ce soir, on va essayer de développer un peu ce texte, de le diviser en sections et de voir certains mots grecs qui nous permettent une interprétation plus profonde. Mais à la base, ce message, ce texte a déjà un message grandiose. La Bible nous dit ici que Jésus a mis le comble à son amour. Dans certaines versions, et dans la plupart des versions, en fait, on va vous dire que Jésus a amené son amour à une finalité ou a accompli son amour jusqu'à la fin. En fait, l'expression « mettre le comble à son amour » veut simplement dire que Dieu, que Jésus a amené son amour au point ultime qui se devait d'être. Et ce point ultime débute effectivement dans ce court passage. Cette histoire de Jean 13 se passe le soir de la Pâque, la veille de la mort de Jésus. Le soir où ses disciples et lui vont prendre pour une dernière fois avant sa mort le pain et la coupe. Et Jésus va dire, j'ai espéré vivement prendre ce pain et cette coupe avec vous. Jésus l'a espéré vivement, l'a espéré longtemps, parce que de toute éternité, il savait que cette journée allait venir où le Fils de Dieu, agneau de Dieu, allait être offert pour le pardon et le salut de l'humanité. Et c'est en vue de cette dernière Pâque, en vue de ce sacrifice à la croix, que Jésus va dire « J'ai vivement espéré ce temps ». Il savait que les moments qu'il allait passer seraient difficiles. Il savait que ce serait un martyre qui l'attendait. Mais en dépit de cela, il se réjouissait de mettre un terme au règne du péché dans la vie de tout pécheur repentant, de tout enfant de Dieu qui confierait le règne, ou les rênes plutôt, de sa vie à Christ. Dans ce verset qu'on vient de lire, assurément, il y a des choses qui nous semblent anodines. Le fait que ce passage prenne lieu ou se déroule le jour de la Pâque, lorsque la fête de la Pâque arrivait. Comme on l'a expliqué dimanche, la fête de la Pâque, c'était dans le premier mois de l'année juive, dans le premier mois du calendrier juif, du 14e au 20e jour, donc du mois de Nissan. Et cette fête commémorait un moment important dans la vie du peuple juif. Ça commémorait en fait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. On se rappelle que avec les fils de Jacob, notamment avec Joseph, ils sont arrivés en Égypte dans un moment de sécheresse, dans un moment de besoin. Joseph, qui avait été vendu par ses frères à différents marchands, s'est ramassé après un concours de circonstances qui était prévu par Dieu, puisque Joseph lui-même, lorsque ses frères vont demander pardon de l'avoir vendu, il va leur dire « Non, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses pour que je puisse prendre soin de vous en ce moment de sécheresse et de besoin. » Donc Joseph arrive là avec ses frères, avec la famille de Jacob. Joseph occupe à ce moment-là le rôle de ce qu'on appellerait dans notre langage usuel et contemporain de premier ministre. Il est l'intendant d'Égypte. Le seul qui est au-dessus de lui, c'est Pharaon. Alors Joseph établit sa famille dans le pays d'Égypte, cette famille de bergers, cette famille qui arrive avec de petits troupeaux, mais avec les années, ces troupeaux vont grandir. Et le peuple d'Israël va devenir puissant au sein même de la nation égyptienne. Et ce faisant, ils vont devenir une menace pour les Égyptiens. Lorsque Pharaon, qui était là sous Joseph, va mourir, on nous dit que par la suite, ceux qui vont lui succéder n'avaient pas connu Joseph. et par conséquent n'auront pas l'égard que le Pharaon premier avait à l'égard du peuple d'Israël et de la famille de Jacob. Et en fait, ils vont se tourner contre Israël, les menant jusqu'à l'esclavage. Et pendant 400 ans, donc Israël va vivre en territoire égyptien, dans l'esclavage, face à des maîtres, donc égyptiens. Et à un moment donné, Dieu lève un homme comme libérateur pour Israël, et c'est Moïse. Il va prendre Moïse qui a fui, qui a été élevé, un juif, qui a été recueilli à la naissance par la fille de Pharaon, qui a été élevé par elle dans le palais de Pharaon. Mais un jour, Moïse, qui sait qu'il est d'origine juive, voit un Égyptien qui bat un juif. Moïse va s'interposer à un tel point qu'il tue même l'Égyptien et il va fuir. Il va aller dans le désert et après encore là une multitude de circonstances, Dieu se révèle à Moïse et lui dit de retourner en Égypte, d'aller vers son peuple, le peuple juif, et de le libérer. Moïse va obtempérer, va s'adjoindre son frère Aaron, qui va lui servir de porte-voix, parce que la Bible nous dit que Moïse était bègue. Donc Aaron, qui a plus de fluidité dans son langage, va être le porte-voix de Moïse. Moïse se présente donc devant Pharaon, lui dit « Laisse aller mon peuple », et Pharaon dit non. Et Dieu envoie une plaie. Puis Pharaon dit « Ok, je vais vous laisser partir, mais sous certaines conditions ». Et Moïse dit non. Et les plaies vont s'accroître au fur et à mesure des refus de Pharaon, jusqu'à la dernière plaie qui va être par la suite rappelée dans le repas de la Pâque. Dans cette dernière plaie, Moïse avise le peuple d'Israël que l'ange de la mort va survoler toute la nation égyptienne, tout le territoire égyptien dans la prochaine nuit. Et que Dieu va frapper durement Pharaon par la mort des premiers-nés mâles de toute famille. Et le seul moyen de passer outre ce fléau, de passer outre de cette plaie, c'est de tuer un agneau sans tache, un agneau pur, et de recueillir le sang de cet agneau et d'en badigeonner le pourtour des portes. Et c'est ce que Israël va faire. Et le soir venu, après avoir répandu le sang sur les linteaux des portes, à ce moment-là, l'ange de la mort survole le camp, survole la nation égyptienne. Et dans tout foyer où le sang a été appliqué sur les linteaux de la porte, l'ange de la mort passe outre. Mais dans toute maison où on n'a pas appliqué le sang, l'ange de la mort rentre et le premier-né mâle de cette famille vient à mourir. Bien sûr, c'est une nuit qui est terrible, une nuit qui est remplie de cris, d'émoi dans le camp juif, dans le camp égyptien, et qui va pousser Pharaon à obtempérer finalement, en disant au peuple d'Israël, prenez tout ce que vous avez, prenez vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, et quittez notre territoire, partez. Et effectivement, c'est cette dernière plaie qui va signaler la sortie d'Israël de sous l'emprise égyptienne, de sous l'esclavage égyptien. Alors, à chaque année, dans la fête qui arrive au mois de Nissan, du 14e au 20e jour, on soulignait donc la sortie d'Égypte, ce que les ancêtres sous Moïse avaient réussi à faire par la grâce de Dieu. Mais ce symbole de l'agneau qui était offert et qui permettait à l'ange de la mort de passer outre les foyers juifs était un signe précurseur, un signe annonciateur de ce que Christ allait accomplir pour nous-mêmes. Ce n'est pas un hasard que Jésus ait à mourir lors de la fête de la Pâque. C'est pas un hasard que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, vienne à mourir lors de cette célébration. En fait, il venait mettre un point final à la Pâque, comme étant lui l'agneau pascal parfait, comme étant lui le seul moyen parfait et excellent et complet qui permet effectivement à l'ange de la mort de passer outre nos maisonnées. Et quand je parle de l'ange de la mort de passer outre de nos maisonnées, je ne parle pas de la mort physique, puisqu'effectivement nous sommes humains et nous sommes tous appelés à mourir, à moins que Jésus ne vienne dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou d'ici notre date arrêtée quant à notre mort, et qu'il nous prenne de notre vivant avec son Église. Mais sinon, en tant qu'humain, on est tous appelés à mourir. L'ange de la mort, ce qu'il ne peut pas faire ici, à cause du sang de Jésus qui a été versé, c'est d'enlever la vie éternelle à qui croit dans le moyen du salut que nous avons à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur. Dans ce verset, il y a quatre thématiques importantes qui sont abordées. Et cette première thématique concernant la Pâque, c'est le fait que cette Pâque devrait être au centre de tout ce que nous faisons. Au centre de la mort de Jésus, il y a la Pâque. Il y a cet agneau offert injustement en ce qui a trait à l'agneau pour notre salut. Cet agneau que Dieu a pourvu lui-même pour notre salut. De façon régulière dans la parole de Dieu, cette image revient. Que ce soit l'agneau pascal lors de la sortie d'Égypte, que ce soit lorsque Abraham allait sous la demande de Dieu offrir son fils Isaac. Et Dieu a pourvu un taureau qui a servi de victime de sacrifice à la place d'Isaac. De même, lorsque Jésus a donné sa vie, il devient pour nous ce sacrifice expiatoire, ce sacrifice de remplacement au sacrifice que nous aurions dû subir pour nos propres fautes, pour nos propres iniquités, pour notre propre péché. Le point qui est important à se rappeler ici, c'est que tous étaient condamnés sous le territoire égyptien. La famille juive qui disait « Non, nous on ne croit pas à Moïse, nous on ne croit pas à ce que Moïse raconte » et qui aurait décidé « Nous on ne tuera pas d'agneau et on n'appliquera pas de sang sur le linteau de nos portes », ben l'ange de la mort serait rentré dans cette maisonnée et le premier-né mâle serait mort. La chose qui a sauvé chacun des premiers-nés mâles des foyers juifs, c'était d'avoir cru, d'avoir eu la foi en ceux qui leur avaient été annoncés. De même pour nous, ce qui nous sauve encore aujourd'hui, c'est de croire que cette Pâque a effectivement eu lieu. La Pâque parfaite a effectivement eu lieu à travers Jésus, mort et ressuscité à la croix. En fait, le malheur dans l'histoire de l'Église, c'est que très souvent, on s'éloigne de cette pierre angulaire qu'est l'agneau de Dieu. Très souvent, on s'éloigne de ce point primordial de la parole de Dieu. Très souvent, on rentre dans des débats vains, on rentre dans des échanges, voire même belliqueux, avec bien des gens. Parfois, on leur présente un Jésus qui fait un tas de choses, sans annoncer que Jésus est venu pardonner le péché qui avait déjà condamné l'humanité. On va présenter Jésus comme le guérisseur ou le médecin par excellence, celui qui peut guérir dans des situations difficiles, et on oublie de dire aux autres, aux prochains, aux pécheurs, qu'il est pécheur, qu'il est donc condamné et qu'il a besoin d'un sauveur. On trouve parfois qu'il est plus payant, entre guillemets, qu'il est plus facile de présenter Jésus qui pourvoit, Jésus qui guérit, Jésus qui console, Jésus qui apaise, Jésus qui fortifie, plutôt que Jésus qui vient payer le prix du péché qui était mien. En présentant le médecin par excellence, on ne présente pas pour autant le sauveur. En présentant l'ami fidèle, on ne présente pas pour autant le sauveur. En présentant le médecin par excellence, on ne présente pas nécessairement le sauveur. Et si je ne présente pas le sauveur, je prive mon prochain de la seule occasion de salut qui lui est offerte. Alors voilà pourquoi, pour nous en tant que chrétiens, notre discours, nos actions, notre message doit toujours revenir à Christ, agneau de Dieu, crucifié, mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Dans tous les témoignages que l'on donne, on devrait toujours revenir à Christ, agneau de Dieu, mort et ressuscité pour le salut. Sinon, on présente une foi incomplète. Sinon, on présente un salut incomplet. Effectivement, Dieu guérit encore aujourd'hui. Effectivement, Dieu fortifie encore aujourd'hui. Effectivement, Dieu pourvoit encore aujourd'hui. Effectivement, Dieu console, apaise encore aujourd'hui. Mais tout cela vient après, en importance, le fait que Christ sauve encore aujourd'hui. Il y a bien des choses qui peuvent apaiser. Il y a bien des choses qui peuvent réjouir. Il y a bien des choses qui peuvent favoriser une éclosion financière. Il y a bien des choses qui peuvent rapporter financièrement. Il n'y a qu'un seul qui apporte le salut, et c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité à cause de nous et pour nous. Et comme j'expliquais dimanche, personne, mais vraiment personne, ne proclamera ce message si ce n'est l'Église. Il ne faut pas s'attendre à ce que les premiers ministres, les rois, les empereurs puissent parler de la mort de Jésus et de sa résurrection. Il ne faut pas s'attendre à ce que nos dirigeants politiques, sociaux, économiques ou autres soient les proclamateurs de ce message de rédemption. Les seuls qui en sont garants, les seuls qui en sont porteurs, sont les enfants de Dieu. C'est l'Église. Et malheureusement, très souvent, on parle d'un tas de choses, mais on oublie l'importance primordiale d'annoncer la Pâque qui s'est réalisée, qui s'est manifestée à travers la mort et la résurrection de Jésus. Alors notre premier point, Christ, l'agneau de Dieu, doit être le point central de notre message et de notre vie. Je répète pour vous, Christ, agneau de Dieu, doit être le point central de notre message et de notre vie. Si je vis la vie que je vis, si je mène le mode de vie qui est le mien, c'est à cause de Christ, Christ mort et Christ ressuscité, à cause de moi et pour moi. Je veux honorer mon Sauveur, je veux honorer mon Seigneur, je veux honorer ce qu'il a accompli sur la croix pour moi, alors à cause de cela, je mène la vie que je mène. Parce que je suis conscient que c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. C'est l'événement qui change le cours de la vie d'un homme. Christ mort et ressuscité pour le pécheur. Alors oui, je le proclame. Il n'y a pas une nouvelle plus importante. Il n'y a pas une annonce plus importante. Il n'y a pas une annonce plus glorieuse que celle-là. Il n'y a pas une annonce qui a un poids et une conséquence ou une incidence si importante quant à la vie éternelle de celui qui l'entend. L'Église devrait revenir sur ce message central de Christ, mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui a subi l'offense de la croix pour le pécheur. qui, croyant et se repentant, vient expérimenter le salut pour lequel Jésus est mort et ressuscité. Dans la deuxième partie du verset qui nous dit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » De passer de ce monde au Père. Et effectivement, à prime abord, ça nous parle de Jésus qui doit mourir, donc quitter cette vie terrestre qui est la sienne, depuis 33 ans, et passer avec sa mort au royaume de Dieu. Mais ça va plus loin que cela. Lorsqu'on parle que Jésus doit passer de ce monde au Père, monde, c'est le terme cosmos qui nous parle, oui, effectivement, de cette terre et de l'univers qui est le nôtre. Mais au-delà de cela, ça nous parle aussi de la multitude qui est éloignée de Dieu. Jésus qui passe de ce monde, lorsque le terme « monde » va être utilisé dans la parole de Dieu, on parle de ce monde pécheur, de ce monde contaminé par le péché, influencé par le péché, souillé par le péché. Et Jésus sait qu'il doit quitter ce monde pécheur pour aller vers le Père. Et lorsqu'on parle du Père, effectivement, on parle de notre Père céleste, on parle de Dieu, mais on parle aussi de tout ce qu'est Dieu, donc de la pureté ineffable de Dieu, de la sainteté ineffable de Dieu, de la gloire ineffable de Dieu. Ici, on a un deuxième principe où on comprend l'importance de quitter ce monde pour passer à Dieu. Lorsqu'on vient à la croix, lorsqu'on vient effectivement à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, lorsqu'on passe par le calvaire et qu'on s'identifie à la mort de Jésus à la croix, ce qu'on fait en fait, c'est cette transition du monde souillé qui était le nôtre, de notre état de pécheur à notre état de fils racheté, purifié et sauvé. On passe de ce statut de fils illégitime, de fils chassé de la gloire de Dieu, à enfant recueilli, adopté et greffé à la famille de Christ. Mais pour ce faire, il nous faut avoir le même exemple dans nos vies que Jésus nous a donné. Jésus est passé de ce monde à son Père en acceptant la volonté du Père, en acceptant la volonté divine sur sa vie. Et cette volonté divine, ce n'était pas facile à Jésus de l'accepter. Dans sa prière à Gethsémané, lorsqu'il va dire « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, de mes lèvres. » Jésus est en train de parler de la mort qui va être la sienne, des douleurs qu'il va ressentir dans les prochaines heures, de l'abandon qu'il va subir de ses proches, du reniement de Pierre, du fait d'être vendu par Judas, d'avoir été abandonné par tous les siens. Jésus, lorsqu'il dit « Retire de moi cette coupe de mes lèvres si tu le peux », il est en train de dire, voilà, c'est douloureux ce vers quoi je m'en vais. Mais Jésus termine son intercession agonisante, puisque la Bible nous dit qu'il va transpirer comme des grumeaux de sang qui tomberont de son front, tellement l'intercession est difficile et douloureuse. Mais Jésus termine en disant, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. Nous ne pouvons passer de cette terre, de notre état de pécheur, à notre Père et à la présence de Dieu, qu'avec un facteur, en acceptant la volonté de Dieu dans nos vies. Plusieurs personnes veulent connaître Jésus comme Sauveur, en comprenant qu'il est le seul qui a payé pour le salut de l'humanité. Et venir à Jésus n'est pas douloureux dans le sens où je n'ai pas à passer par la croix puisque Jésus l'a fait. Alors plusieurs veulent invoquer Jésus comme sauveur dans leur vie. Mais le passage de ce monde à la présence de Dieu ne survient qu'avec la volonté de Dieu. lorsque la volonté de Dieu vient imprimer sur ma propre volonté. Jésus ne pouvait passer à son Père qu'en acceptant la volonté divine sur sa vie. Et cette volonté divine, dans le cas de Jésus, c'était la croix. C'était le calvaire pour toi et pour moi. À l'instar de Jésus, nous ne pouvons communier avec Dieu. Nous ne pouvons bénéficier de la présence intime de Dieu qu'à travers le fait d'accepter la volonté de Dieu. En fait, en termes très simples, je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas avoir le Sauveur sans avoir le Seigneur. Cette Pâque est inutile, à moins que ce Sauveur soit aussi votre Seigneur. À moins que la volonté de ce Sauveur s'accomplisse réellement dans votre vie. Cette soumission à la volonté de Dieu est présente dans toute la vie de Jésus. Depuis son jeune âge, la Bible nous dit, notamment à 12 ans, lorsqu'il est dans le temple à discourir pendant 3 jours avec les anciens d'Israël, lorsque ses parents, Marie et Joseph, viennent le chercher 3 jours plus tard et leur demandent « Mais pourquoi tu ne nous as pas suivis? Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 3 jours ?» Et Jésus va leur dire « J'étais en train de m'occuper des choses de mon Père. » Il était en train d'accomplir la volonté de son Père. Et à la dernière minute, avant son arrestation, il est encore en train de dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et si Jésus est effectivement l'exemple que nous devons suivre, passer de ce monde à l'intimité de la présence de Dieu passe aussi par une acceptation de la volonté de Dieu sur ma vie. Donc le fait de faire de Jésus non seulement mon Sauveur, mais aussi le Maître, le Seigneur de ma vie. Comme point numéro 2, en fait, je suis en train de vous dire, la volonté et le plan de Dieu doivent avoir primauté sur la vie du croyant. Et je répète pour vous, la volonté et le plan de Dieu doivent avoir primauté sur la vie du croyant. Non plus ma volonté, non plus mes désirs, non plus mes plans, non plus mes voies, mais la volonté, le plan, les desseins, les voies de Dieu et non plus les miennes. Dans la troisième section de ce verset, on va nous dire « Et Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. » Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. On se méprend parfois sur l'interprétation de cette section-ci. Les siens qui étaient dans le monde. Certains regardent ce verset et se disent, oui, c'est-elle donc les enfants de Dieu rachetés qui se trouvent dispersés un peu partout? Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est que parmi ceux qui sont dans le monde, Jésus a aussi des gens qui vont lui appartenir. Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde avant que tu ne rencontres Jésus. Jésus savait que tu te tournerais vers lui. Mais pour te tourner vers lui et pour que le salut s'accomplisse, pour que la manifestation de son salut survienne, il fallait donc que Jésus meure. Et Jésus est mort par amour pour toi. Lorsqu'on nous dit ici, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, on est en train de parler de ceux qui vont lui appartenir et que de ceux qui vont s'identifier à lui à travers son amour. Et comment s'est manifesté son amour? À travers sa mort à la croix. Jésus va dire à ses disciples à un moment donné, il n'y a personne qui me prend ma vie. Il n'y a personne qui prend ma vie. C'est moi en tant que berger qui donne ma vie pour mes brebis. Jésus n'a pas subi la croix. Jésus a accepté délibérément la croix et il l'a accepté parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Jésus a accepté d'être cet agneau pascal qui ferait en sorte que la condamnation passerait outre ta vie. parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Jésus a accepté d'être cet agneau qui permettrait que la condamnation ne subsiste pas sur ta vie par sa mort et par sa résurrection, parce qu'il t'aimait. Au même titre où Jésus a aimé ceux qui étaient dans le monde, nous devrions nous aussi, à l'instar de Jésus, aimer aussi ceux qui sont dans le monde et donner notre vie pour eux. Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si effectivement nous sommes imitateurs de Christ, alors il n'y a pas d'autre niveau d'amour qui devrait être le nôtre. L'amour que nous manifestons devrait être un amour qui donne notre vie en faveur de notre prochain. Malheureusement, dans notre société contemporaine, on a différentes philosophies qui sont venues nous influencer. On a cette grande philosophie qui dit qu'on doit penser tout d'abord à nous. Et une fois qu'on aura assez pensé à nous, qu'on aura assez pris soin de nous, on pourra prendre soin des autres. Certains vont même prôner qu'on se protège soi-même. Et une fois qu'on sera en forme, à ce moment-là, on pourra penser aux autres. Croyez-moi, le diable fera tout ce qui est en sa capacité, tout ce qui est en son possible pour faire en sorte que tu ne te sentes jamais apte à prendre soin des autres. Jésus a pensé à toi avant de penser à lui. Jésus a pensé à moi avant de penser à lui-même. Et si je suis l'exemple que Jésus m'a donné, si je deviens imitateur de Christ, j'ai donc à passer mon prochain avant moi-même. J'ai donc à passer le besoin de mon prochain avant moi-même. On va nous dire que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde. Vous ne pouvez pas mourir pour quelqu'un à moins que vous ne soyez passionné par cette personne. Voilà le type d'amour que Jésus avait pour nous. Et lorsqu'on parle du terme amour ici, du terme aimer, c'est le terme agapao, qui veut dire l'amour parfait, l'amour plein, l'amour excellent. Dans la terminologie grecque, il y a plusieurs mots pour amour, mais lorsqu'on en vient à agapé, à agapao, on parle de cet amour sublime et extrême qui va habiter Jésus jusqu'à donner sa vie pour toi et pour moi. Et pour moi, pour toi, c'est aussi le modèle à suivre. La question pour toi et pour moi, est-ce qu'on aime vraiment notre prochain? Un des fondements de la chrétienté doit être l'amour que nous avons pour notre prochain. Tu aimeras Dieu comme personne d'autre. Puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans équivalence, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ce qui t'habite. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime ce verset et j'aime qu'il stipule « comme toi-même ». Parce que notre premier réflexe, notre première facilité, c'est de prendre soin de nous-mêmes. Oh, c'est très facile de s'aimer soi-même. Et en général, on s'aime soi-même de façon très élevée ou étendue. Jésus va dire cette phrase-là pour qu'on comprenne comment on devrait aimer l'autre. Au même titre où il est facile de t'aimer toi-même, tu devrais aussi tout aussi facilement aimer ton prochain. Au même titre où tu prends soin de ta personne, où tu prends soin de ce qui t'appartient, où tu prends soin de ton existence et où tu veilles sur toi et où tu essaies de te protéger, au même titre, d'une même force, tu devrais aimer ton prochain. La question pour toi et pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Avons-nous une passion dévorante envers les hommes et les femmes de notre génération? On prie pour Montréal. On habite à Montréal. Notre église est située à Montréal, mais aimons-nous vraiment Montréal? J'ai déjà vu des personnes qui travaillaient dans des endroits et leur travail, c'était comme un tordage de bras. Et ils témoignaient franchement en disant, « Moi, je suis ici simplement parce que Dieu me veut ici. » Un peu comme Jonas. Jonas qui s'en va à Ninive, mais qui n'a pas envie d'être à Ninive. Jonas qui prêche à Ninive, mais qui n'a pas envie que le salut se répande à Ninive. Tu vois, tu peux prêcher à Montréal. Tu peux évangéliser à Montréal. Tu peux faire entendre ta voix à Montréal, mais ne pas aimer Montréal. Et la Bible nous dit que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que nous sommes, quand on fait, on dit où on est sans amour, ben on est semblable à une cymbale qui résonne, à une cymbale qui fait du bruit. Quand je parle, quand je témoigne, quand je prêche, quand je vis sans amour pour mon prochain, la Bible dit de moi que je suis une cymbale qui fait simplement du bruit. Alors tu peux évangéliser comme une cymbale qui fait du bruit. Tu peux prêcher comme une cymbale qui fait du bruit. Tu peux proclamer un tas de choses comme une cymbale qui fait strictement du bruit. À moins que tu n'aimes cette génération-ci. À moins que tu ne l'aimes de cet amour agapé, agapao. Tu ne restes d'ici là qu'une cymbale qui résonne. Une cymbale qui fait du bruit. Je prie que lorsque le Seigneur nous regarde, nous ne soyons pas qu'un instrument cacophonique. Qu'on ne soit pas cette cymbale qui fait strictement du bruit, mais qu'on proclame avec grâce et avec amour le message de Christ, agneau de Dieu, mort et ressuscité pour le salut de notre génération aussi. Et il termine en disant que Jésus mit le comble à son amour pour eux. L'expression « mettre le comble » qu'on voit plus justement traduite dans d'autres traductions, dans d'autres versions bibliques, c'est amener cet amour jusqu'à sa fin. Amener cet amour jusqu'à son sommet. Foncièrement, on est en train de dire que Jésus a fait tout ce qui devait être fait pour ton salut. Il a fait tout ce que l'amour dicte de faire pour le salut de cette humanité. Et cet amour, c'était de faire tout ce qui était à faire, même si cela en coûtait sa vie. En fait, l'idée pour toi et pour moi, et notre quatrième point ce soir, c'est que l'enfant de Dieu devrait tout donner et tout faire pour le salut d'une âme. Je répète, l'enfant de Dieu devrait tout donner et tout faire pour amener une âme au salut. On avait ce cantique qu'on chantait autrefois. Et vous avez certainement remarqué avec le cantique que j'ai interprété aujourd'hui, quand je me retrouve tout seul avec ma guitare, je reviens toujours à ces vieux hymnes qu'on chantait lorsque on a connu le Seigneur, nous, il y a au-dessus de 40 ans maintenant. Mais il y avait un de ces cantiques qui disait « Connais-tu le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. » Connaissons-nous, savons-nous le prix d'une âme? Le prix d'une âme est élevé. Le prix d'une âme a coûté la vie de Jésus. Et à chaque fois que je ne témoigne pas de Jésus, à chaque fois que je ne témoigne pas de la mort et de la résurrection de l'agneau de Dieu, je suis en train de mépriser cette âme que lui a aimée et pour laquelle il a payé le prix ultime en donnant sa vie. Toi et moi, nous devrions donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, pour le salut de cette génération-ci. quatre points ce soir. Premièrement, Christ, l'agneau de Dieu, doit être le point central de notre message et de notre vie. Je répète, juste pour qu'on l'affiche à l'arrière, s'il vous plaît. Merci. Christ, l'agneau de Dieu, doit être le point central de notre message et de notre vie. Deuxième point, la volonté et le plan de Dieu doivent avoir primauté sur la vie du croyant. La volonté et le plan de Dieu doivent avoir la primauté, la priorité dans ma vie de croyant. Troisième point, l'enfant de Dieu devrait avoir une passion dévorante envers les hommes et les femmes de sa génération. En tant que chrétien, je devrais avoir une passion dévorante envers les hommes, les enfants, les femmes de ma génération. Et enfin, quatrième point, l'enfant de Dieu devrait tout donner et tout faire pour amener une âme au salut. On ne devrait pas s'économiser, on devrait tout donner, tout faire pour amener une âme au salut. Exactement ce que Paul a dit de faire. Je me suis fait tout à tous pour en gagner au moins quelques-uns. J'ai fait tout ce qui était nécessaire pour en gagner au moins quelques-uns. Que nous puissions le faire aussi. Prions pour terminer ce soir. Seigneur, on avait ce cantique qu'on chante à l'occasion. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus. Penser, agir, aimer. Être toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Voilà mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Permets-moi d'aimer, Seigneur, comme toi tu m'as aimé. Permets-moi, Seigneur, d'être rempli d'un même amour, d'une même passion pour ma génération que toi tu as eu envers elle. Lorsque tu es mort à la croix, tu ne pensais pas simplement à la génération contemporaine de ta mort, mais aussi à toutes celles qui suivraient. Tu pensais à moi, Seigneur. Lorsque tu es mort à la croix, tu pensais au pécheur que j'étais. Et tu as payé le prix qui était nécessaire pour mon salut. Tu as tout fait ce qui était nécessaire pour que je sois sauvé. Si effectivement je veux te ressembler, alors je veux effectivement être en communion avec l'amour qui émanait de toi, pour pouvoir aussi aimer ma génération. Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour moi, et humblement, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas aimé comme tu nous demandais d'aimer, que nous n'avons pas parlé avec l'amour que nous devions avoir. Parfois, on l'a fait par devoir. Parfois, on l'a fait pour cocher une case, une responsabilité qui était remplie. On s'est débarrassé d'une tâche. Parfois, on l'a fait tout simplement pour se pavaner devant les autres en disant « Voici, moi, je témoigne. » Mais Seigneur, à chaque fois qu'on parle et qu'on le fait sans l'amour, on n'est qu'une cymbale qui retentit et qui fait du bruit. Seigneur, Montréal, le Québec, le Canada, notre génération a eu trop de cymbales qui faisaient du bruit. Je prie que tu trouves parmi nous des hommes, des femmes remplis de ton amour, qui offrent leur vie au service de ton royaume par amour, qui offrent leur vie au service de leur génération par amour. Des hommes et des femmes qui sont touchés par ta grâce, touchés par ton amour, touchés par ta passion et à travers lesquels tu travailles au moyen de ce même amour qu'ils pourront témoigner envers leurs concitoyens et envers leurs contemporains. Je prie pour moi, Seigneur, et je te demande pardon. Pardon de ne pas avoir regardé avec tes yeux. Pardon de ne pas avoir parlé avec la grâce qui vient de toi. Pardon de ne pas avoir agi avec l'amour qui émane de toi. Pardon de ne pas avoir aimé suffisamment. Pardon de ne pas avoir été passionné par rapport à nos contemporains. Seigneur, si tu me donnes le souffle de vie encore demain, ce sera pour aimer davantage, pour parler enfin, non plus comme une cymbale qui fait strictement du bruit, mais avec des mots qui sont une douce mélodie à ton oreille, une vie qui devient un doux parfum pour toi et qui répand autour d'elle le parfum de l'amour et de la grâce de Dieu. Amour et grâce de Dieu manifestés à travers la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Ramène-moi cette pensée, Seigneur, de cet amour que tu as manifesté envers moi, pour que je puisse être si ébranlé par cet amour que je ne puisse plus me taire et que je témoigne avec grâce et avec amour, de l'agneau de Dieu, seul et unique sauveur, seul et unique qui nous permet de passer outre la condamnation qui est déjà échue sur nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ton amour, merci de nous utiliser pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, mes amis, c'est voilà comment se termine notre réunion de ce soir. On vous invite à méditer sur le message de ce soir, à prier, à demander à Dieu de vous utiliser, de faire croître en vous son amour pour cette génération et que vous puissiez avec hardiesse et avec simplicité parlez autour de vous de l'agneau de Dieu, mort pour le salut et ressuscité pour le salut du pécheur qui croit et du pécheur qui se repent. Alors, dernière petite notice avant de vous lâcher ce soir. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche, pour y assister en présentiel, les inscriptions ont cours. Vous pouvez soit écrire à l'adresse courriel de l'Église, vous la connaissez, je vous la répète malgré tout, secrétariat EAJC@commercialgmail.com, ou vous nous appelez au numéro au bureau de l'Église, donc au 514-273-8295. Si vous allez sur notre page Facebook ou sur notre page Internet, vous allez trouver toutes ces coordonnées. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Les personnes doivent être âgées de 6 ans ou plus. Donc, vous nous donnez le nom de chacune de ces personnes. Et dans les prochaines heures ou les prochains jours, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire, on vous contacte pour confirmer votre inscription. On ne peut accueillir que 100 personnes, donc ne tardez pas pour les inscriptions. On fonctionne avec le mode d'opération premier arrivé, premier servi. Donc, premier inscrit, premier confirmé. Alors, voilà. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain matin pour la bénédiction matinale jeudi matin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.